demande le fric à ton vieux. Et tire-toi d'ici. Ailleurs, si c'est pas mieux, alors tant pis. Même si la route est mouillée, mets ton ciré verni. Paye pas ton demi, va-t'en sans dire merci. Et roule dans la nuit pour te commencer que tu vas vite. On sait que tu vas vite, pour te commencer que tu vas vite. On sait que tu vas vite, pour te commencer que tu vas vite. On sait que tu vas vite, pour te commencer que tu vas vite. On sait que tu vas vite, on te guette si on t'attrape en équipe. On te guette si on t'attrape en équipe.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment chaque mercredi. Bonjour, bonjour André, bonjour, bonjour Angelica.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, est avec nous Madame Angelica Gross. Alors Angelica a été stagiaire psychologue en 82-83 à Trieste sur les dispositifs psychiatriques que Franco Basaglia et ses camarades ont initié dans le cadre de ce qu'on a appelé l'antipsychiatrie italienne. Et donc elle va nous en parler. Angelica, dans quel cadre, dans quel contexte vous avez été amenée à travailler comme stagiaire psychologue à Trieste, et pouvez-vous nous indiquer ce qu'il en était de ce mouvement à l'époque où vous y avez travaillé? Je vous remercie.
Oui, bah, ça remonte à loin. Donc j'étais, comme vous l'avez dit, j'étais psychologue stagiaire parce qu'auparavant, j'ai fait mes études à Zurich, en Suisse. Et je faisais les études de psychologie et psychopathologie et nos stages se passait à l'hôpital psychiatrique de Zurich, et j'étais assez choquée de la manière dont on nous a présenté les patients. On était dans un amphithéâtre et les patients arrivaient avec dans un fauteuil roulant et on parlait d'eux. On leur adressait pas la parole. On parlait de leurs problématiques, mais d'une manière qui m'a totalement révoltée. Mais à l'époque, j'étais absolument trop timide pour ouvrir la bouche et crier, mais on peut pas faire comme ça, vous voyez. Mais après, à la fin de mes études, j'ai dû donc me décider quelle branche choisir, parce que la psychologie, à l'époque, était une science nouvelle. Et moi, auparavant, j'ai déjà travaillé dans un hôpital, donc pour moi, c'était clair que j'allais poursuivre dans le milieu hospitalier. Et j'avais comme étudiante eu vent de cette grande réforme qui s'est passée en Italie, notamment à Trieste. Et si bien que j'ai trouvé l'adresse et j'ai écrit tout simplement à la direction et j'ai eu comme réponse... bien sûr, j'ai écrit en italien avec un dictionnaire à côté. Et j'ai eu comme réponse qu'on m'admettait bien comme volontaire. J'étais logée, nourrie. Et donc, on a fixé une date. C'était, je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'était en 82, début de l'année. Et voilà, avec mon copain, à l'époque, on partait. Lui allait à Venise, moi à Trieste. Et donc, il y avait quelqu'un, un autre copain architecte qui m'accompagnait jusqu'à Trieste, jusqu'à mon lieu de rendez-vous qui était dans le centre de santé mentale de la Via Gambini à Trieste. Et je me souviens très bien quand je suis arrivée. C'était un grand espace au premier étage où il y avait beaucoup de monde et j'étais assez, un peu désorientée parce que je ne savais pas à qui m'adresser, c'était l'heure du déjeuner. Donc,
alors c'était bien un centre de psychiatrie communautaire?
C'était un centre de santé mentale, oui, c'était oui. Du secteur, oui, oui. C'était donc...
En extra-hospitalier.
Oui, absolument.
Voilà, oui, c'est important.
Et c'était là où je devais me présenter. Mais ensuite, j'étais aussitôt accompagnée au lieu où j'allais vivre, parce que j'étais... Voilà. Et ça, c'était l'ancien site de l'hôpital San Giovanni.
Donc, vous avez eu un hébergement dans le lieu anciennement d'internement.
Absolument. Dans le département des femmes.
Oui. Unité femmes, quoi.
Unité femmes. Parce qu'on était en charge de nous occuper aussi des anciennes, les derniers des derniers.
Oui, oui.
Qui devaient partir.
Qui étaient trop chroniques pour être.
Qui étaient, voilà, qui avaient un temps d'adaptation ou de réadaptation beaucoup plus long que tous les autres. Parce qu'au départ, l'hôpital compte plus de 1000 personnes internées. C'est un très, très grand site.
Donc, alors, à l'époque, avant la désasilarisation, il y avait à peu
avant
près...
Avant
la désasilarisation, la désinstitutionnalisation.
Oui, oui.
Il y avait 1000 personnes internées. Quand vous y étiez, il y avait combien de personnes dans les murs?
Je ne sais pas dire exactement, parce
près.
Que... non, vraiment, je ne sais pas vous dire. Parce qu'il y avait toujours... au sein du site, l'hôpital judiciaire,
voilà, oui,
qui était
d'accord.
fermé. Voyez.
D'accord.
Et les autres étaient des volontaires, donc je savais pas combien c'était, mais c'était moins de 10. Hein.
Mais ça, ce que vous dites est très important. C'est-à-dire qu'en Italie, il y a une différence entre les hôpitaux psychiatriques judiciaires et le suivi psychiatrique ordinaire.
Alors voilà. Vous m'amenez tout de suite à parler de quelque chose que je voulais, sur quoi je voulais venir plus tard, parce que il y avait évidemment quand je suis débarquée, je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, parce que une fois que j'avais quitté l'Italie, je me suis évidemment posé énormément de questions. Mais donc vous faites référence en fait à la loi Mariotti de 1968. Qui a c'était une loi qui a éliminé, qui allait déjà dans le sens de Basaglia, qui a éliminé l'inscription au casier judiciaire des personnes admises en hospitalisation psychiatrique obligatoire, qui prévoit l'hospitalisation volontaire et créer les premiers centres de santé mentale, dont celui de Via Gambini. Il y a eu ensuite, en 1975, une autre loi, dont j'ai oublié le nom, mais qui renomme les hôpitaux, ou qui donne le nom hôpital psychiatrique judiciaire à ces institutions qui étaient des asiles. Et les mettre sous contrôle du ministère de la Justice,
oui.
Si bien que la loi 180, qui est sortie 300 ans plus tard,
oui.
N'a pas eu effet sur ces hôpitaux psychiatriques judiciaires.
Oui, mais alors Angelica, ça veut bien dire qu'il y a eu en Italie une séparation de régime entre les pénaux irresponsables placés en institution psychiatrique judiciaire et le courant des malades. Il y a bien une séparation de régime. Ce n'est pas le même régime qui s'applique entre ceux qui relèvent de l'institution psychiatrique judiciaire et ceux qui relèvent de simples soins.
Alors, il y a eu quand même un déplacement du regard, c'est-à-dire... La loi 80 et le travail de Basaglia a fait en sorte qu'on déplace le regard du malade à l'institution qui traite, au traitement,
oui.
Vous voyez ? Et aussi qu'on interdise donc, l'internement dans les hôpitaux psychiatriques, on les supprime, on les ferme, et on ouvre par contre des unités de soins dans les hôpitaux psychiatriques, dans les hôpitaux généraux.
Généraux. Mais ça s'est bien passé avec ce que Basaglia a obtenu, la légalisation du traitement sanitaire obligatoire, le TSO, qui est en dehors de l'institution, c'est bien ça.
Le TSO est...
Le traitement sanitaire obligatoire.
Oui, c'est très très réglementé, oui,
oui
bien
voilà.
Sûr.
Non, mais ça c'est très important.
Oui, bien sûr.
C'est très important.
Oui, oui, c'était bon, très très encadré, parce que le pouvoir de signer l'ordonnance
oui.
Est passé au maire.
Oui.
À la commune. Donc, oui. C'était, ça nécessitait l'accord, l'ordonnance de deux médecins,
oui.
Si je me souviens bien, et du maire de la commune.
Et d'un juge d'instance.
Et un juge d'instance.
Non, parce qu'on oublie, juge d'instance. Mais il y a eu le contrôle de cette décision du maire revient bien à un juge.
Absolument.
Bon, d'accord. Oui,
oui, oui. Oui, oui, oui. Et puis la durée était aussi limitée à 7 jours au maximum.
Voilà. C'est-à-dire que la loi 180 pour le courant des personnes psychiatrisées a introduit des garanties.
C'est pas cette loi. Elle arrive en décembre de la même année, cette réglementation.
Ah, d'accord.
Oui, c'était...
Ah, d'accord. Ouais. Donc, si je comprends bien, il y a en fait plusieurs législations qui se succèdent
oui.
Et qui se complètent les unes les autres.
Se complètent, oui. Oui, on peut dire, oui.
Oui.
Ouais. En tout cas, ce sont des lois qui encadrent la
voilà.
Réponse institutionnelle.
Oui.
À la maladie psychique.
Voilà.
Et ça ne veut pas dire, malheureusement, mais je veux revenir à
bien
mon
sûr,
point
oui.
De départ.
Oui, oui, oui.
Voilà. Donc on était, j'arrive donc à cette,
oui.
À ce lieu. Et voilà, plus tard, je m'intéresse beaucoup à la figure de Franco Basaglia, parce qu'il était mort depuis 2 ans, et mon directeur, c'était Franco Rotelli, donc un des personnes du cercle autour de Franco Basaglia. Et mon chef au centre, bon, il y en avait deux, il y avait Mario Reali, et Roberto Mezzina. Et donc, pour vous dire, comment je peux... je suis arrivée dans une ambiance qu'il faut que je vous décrive aussi, oui, parce que c'était une ambiance qui m'a marquée et que je n'ai jamais pu oublier parce que je ne l'ai jamais vécue ailleurs et autrement. Et c'était une ambiance où vous étiez naturellement amené à vous intéresser à autrui, qui que ce soit. Au centre, ça ne me pose aucun problème de me retrouver en compagnie de qui que ce soit, en quel état que ce soit. Et parce que on était constamment en échange. Il y avait un échange entre le site où on était et le centre et les autres centres. Donc c'était peut-être aussi par le fait que nous étions très très nombreux des volontaires d'être venus de pays très très différents, du Brésil, de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Suisse,
Il y avait un appel international à l'époque.
Un appel, je ne sais pas, mais parce que ma démarche était celle que je suis tombée sur cette information et je suis...
Mais c'est-à-dire, vous étiez dans la conséquence de ce qui s'était passé dans les années 70, où pour consolider Trieste et faire connaître ce qui s'était passé, Basaglia et ses camarades avaient lancé plusieurs appels à une collaboration internationale.
Absolument. Il a toujours eu le souci qu'il y a un regard extérieur sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc il a fait... parce que pourquoi ? C'est ce que je voulais vous dire. Basaglia, il est né en 1924. C'est-à-dire, il a vécu la Grande Guerre, il a vécu de la faim. Donc il a 20 ans en 1944 et il participait à la résistance. En tant que tel, il a été emprisonné. Et cette expérience de la prison lui est revenue quand il a ouvert la première fois la porte de son nouveau lieu de travail à Gorizia, qui était l'asile psychiatrique. Et quelqu'un nous a raconté que c'était l'auteur qui était tellement répulsif et qu'il a rappelé cette expérience de la prison. Et donc, il s'est décidé, avec ses collaborateurs, soit on abandonne, soit on fait quelque chose. Oui. Et ce qu'il a fait, il a fait quelque chose. Et je trouve que il faut un peu voir aussi cette figure de Franco Basaglia, cette énergie qu'il s'est dégagée de lui, cette énorme volonté de faire bouger les choses. D'abord seulement, ça concernait seulement l'hôpital de Gorizia, mais après, quand il est arrivé à Trieste, qu'elle était en charge, c'était en 72, il est arrivé à Trieste. Il avait déjà étendu son travail à toute la société. Il a compris qu'on ne devait pas revenir en arrière.
L'époque était propice.
En aucun cas.
L'époque était propice.
Et il s'est tout de suite il a créé une coopérative des Lavori Uniti, donc ça veut dire qu'il s'est associé ouvertement aux patients, il les a fait rentrer dans cette société, hospitalisés volontaires, et il a tout fait pour que chaque personne qui a été internée sortait avec un projet, sortait avec une nouvelle base sous les pieds. Et c'était absolument un travail titanesque.
Parce que ça voulait dire du logement, une insertion socio-professionnelle.
Oui, et tous les droits.
Oui.
C'est-à-dire, c'était ça le grand souci. Il avait, comme Dieu, les droits de l'homme, vous voyez.
Ah oui, il avait, vous voulez dire, sa divinité, c'était les droits de l'homme.
Ah oui?
Oui, évidemment, ça avait été introduit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de 50, Et lui, la Déclaration universelle de 1948.
Mais oui, donc c'était de son temps.
Oui, oui, bien sûr. Donc Denis.
Oui, ben, je veux bien faire une citation de Basaglia lui-même. Oui. Issu du livre L'institution en négation, rapport sur l'hôpital psychiatrique de Gorizia, qui dit, lorsqu'il est dans une interview, il parle de l'interné. L'interné, loin d'apparaître comme un malade, se révèle l'objet d'une violence institutionnelle qui agit à tous les niveaux, chaque contestation de sa part ayant été définie dans le seul cadre de la maladie. Le niveau de dégradation, d'objectivation, d'anéantissement total qu'il présente est bien moins la pure expression d'un état morbide que le produit de l'action destructrice d'une institution destinée à protéger les normaux de la folie.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, c'est ça.
C'est la chronicité, c'est la...
C'est le constat que faisait...
Oui, oui. Alors,
ça avait été fait également par ce sociologue américain qui s'était fait interner Asylum.
Oui,
Goff-Hoffmann.
Oui, donc.
Non. Angelica. Oui, mais il a fait son travail le plus important, je crois, est celui de abolir les rôles, c'est-à-dire un médecin est investi d'un pouvoir divin.
Par délégation.
Oui, par délégation. En tout cas, dans une institution psychiatrique. Ah oui, ça, oui.
Un plein pouvoir, c'est son plein. Des plénipotentiaires, en effet.
Exactement. Donc, il a travaillé ça. Il a travaillé l'asymétrie des relations. Et je pense que c'est ça dont nous avons profité quand je suis arrivée en 82, c'est-à-dire 10 ans après son arrivée à lui, et 4 ans après sa mort. Parce que ce vent, il soufflait très, 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 très fortement. Et c'était un peu déstabilisateur parce que moi j'étais bien, endoctrinée par mes études. Et tout d'un coup, se dire, faut tout lâcher, faut recommencer à zéro, vis-à-vis de n'importe qui, vous devez d'abord vous positionner, vous devez d'abord créer la relation. Et quand je regarde mes notes de l'époque, c'était un gros boulot. Parce que j'en parlais tout le temps et on en parlait entre nous tout le temps. Et ça concernait. Mais ça mettait à nu les relations. Ça nous donnait une vision d'une lucidité, d'une clarté sur ce qui se jouait. Ça, je ne peux pas oublier. Et disons que pendant que j'étais à Trieste, j'ai travaillé beaucoup ça avec aussi les quelques patients que j'étais amenée à accompagner. C'était le rôle que je m'étais octroyé. Parce qu'on pouvait faire ce qu'on nous semblait le plus pertinent, toujours dans l'optique de faire en sorte que chaque personne dans son copier partait avec un avenir. Donc on était là, on était plusieurs mains autour de sur la même personne. Moi par exemple, j'avais une jeune... Moi je devais aller faire des démarches administratives, mais je accompagnais aussi d'autres à faire des démarches administratives parce que j'étais étrangère. Je devais aller à Questura, c'est la préfecture, pour renouveler mon titre de séjour par exemple. Mais d'autres devaient par exemple... aller chercher leurs soucis, leurs allocations. Donc c'était des marches à faire et j'ai accompagné. Après, par exemple, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et comme je devais apprendre l'italien et créer toujours cette relation, je proposais à Manuela, par exemple, de me montrer son Trieste.
Oui, de vous faire visiter la ville.
Faire visiter la ville, mais avec d'autres, on les accompagnait chez le coiffeur. Et j'avais aussi visité, travaillé dans une autre communauté qui était celle des autistes, parce qu'il y avait plusieurs personnes...
De la même ville ? Communauté de la même ville ?
Oui, oui, absolument. Oui, et oui. C'était pas loin... Et on y allait à pied, c'était un peu raide pour y aller. Mais... Et on le faisait des sorties, on les faisait venir, par exemple, à un laboratoire de carnaval où on fabriquait des masques parce qu'on faisait après une procession dans la ville avec tout le monde. C'était très, très folklorique. Et donc, voilà, je passais beaucoup de temps à imaginer comment ça pouvait améliorer, comment on pouvait aussi récupérer quelqu'un du tréfonds des moments mélancoliques suicidaires, vous voyez. Ça aussi, ça faisait partie de notre travail d'accompagnement, de pas seulement insuffler une joie, mais à travers le travail de la relation, faire en sorte que quelqu'un prenne pied.
Reprenne goût à la vie, reprenne goût.
Goût à la vie.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, est-ce que vous aviez les patientes et les patients qui étaient autour de vous, c'était des gens abîmés, très abîmés, pas trop abîmés?
Toutes sortes, oui.
Toutes sortes.
Il y avait de très abîmés aussi, oui. Mm. Oui, notamment les autistes qui ont grandi en institution. Mm. Il y en avait justement une qui, dont le premier réflexe qui m'a beaucoup surpris au départ, parce que je la connaissais, je connaissais pas cette pathologie, c'était je me suis fait arracher les cheveux. Mm-hmm. Parce que tout un coup, bon, j'étais en train de déjeuner, hein, et j'étais à côté d'une autre qui avait des cheveux déjà un peu dégarnis, mais bon, j'ai pas fait trop attention, et tout un coup,
plaf. Mais il y avait une séparation des maladies. Il y avait une séparation des atteintes. Il y avait. Vous me dites qu'à un moment donné, vous avez travaillé dans un autre centre pour autistes. Il y avait une spécialisation.
Il me semblait que pour les autistes, il y avait. C'était 3-4 dans cet appartement. Mmh. On a trouvé cet appartement. C'est une sorte de colocation où il y avait 24 heures sur 24 une relève, mais où on continuait le travail de voir comment on pouvait trouver une insertion de ces personnes dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, la plupart du temps, on les a fait revenir soit au centre, soit au site, et les intégrer dans les différentes activités qui se sont déployées selon les possibilités qu'on entrevoyait et les motivations qui s'est créé au fil du temps à travers les différentes personnes qui se sont occupées de ces personnes. On a toujours veillé à ce qu'il y ait une pluralité de personnes qui s'occupent d'une personne d'atteinte d'une très grave maladie.
Et donc, vous avez parlé à un moment donné des coopératives. Alors, qu'en est-il? Et comment ça se passait?
Alors, les coopératives, c'était un peu.
Parce que si j'ai bien compris, ça a été créé insufflé par
Franco Basaglia.
Franco Basaglia et ses proches et ses collaborateurs, dans le but d'offrir une réinsertion, réinsertion professionnelle aux patients et de normaliser leur situation.
Oui, oui, oui. Bon, ça se passait d'abord autour d'un très grand projet. Ça partait de l'idée très banale du fait que tout le monde devait travailler à l'époque à l'hôpital pour l'entretenir. Donc il y avait des différentes tâches de la vie de tous les jours. Mais il y avait au sein de cet hôpital un cheval, il s'appelle Marco Cavallo, et qui devait tirer le chariot. Et au bout d'un moment, on devait l'abattre. C'était pour Basaglia l'occasion de rassembler les patients autour de cet événement. Et ils ont fait toute une démarche pour sauver la vie à ce Marco Cavallo, devenu aussi un peu le symbole de cette libération, vous voyez. Parce qu'ils sont.
C'était non même seulement une figure de carnaval.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et ils ont donc réussi non seulement à sauver la vie de ce cheval qui a été racheté, qui a été mis sur une prairie, mais ils en ont fait un symbole, donc un très grand cheval de 4 mètres de haut, bleu, et qui, voilà, est devenu le symbole de cette libération, parce que au moment où le sortir de l'hôpital, il était tellement grand qu'il ne pouvait pas sortir du portail. Et donc Franco Boasal, il y a eu cette photo célèbre où il prend un banc et il casse le portail pour faire sortir le cheval.
Voilà. Cheval de carton, oui.
Oui, qui porte les désirs et les souhaits des patients dans son ventre.
Et donc, pour ces coopératives ?
Alors, ces coopératives, donc, il y a eu la coopérative, à mon époque, il y avait seulement la coopérative agricole, enfin, que je connaissais. Hein. Après, je ne sais pas combien il y en a, mais je sais qu'il y a d'autres aujourd'hui. Il y a cette autour de Boasal, qui est le noyau. Mais après, il y a eu une création d'antennes autour. Bon, il y avait cette coopérative agricole qui continuait à labourer les champs et à créer de la nourriture et qui se vendait et tout ça.
Oui, mais Angélica, quel était le statut au niveau du droit du travail des personnes patientes dans ces coopératives ?
Alors, ils étaient tous des sociétaires, c'est-à-dire des travailleurs associés. Ouais. Et ça a été acté dans le statut. Hein. Donc, il y a eu vraiment une rédaction de statut. Et tout
bon,
ça.
Donc, ils avaient un statut professionnel.
Absolument.
Ouais. Oui, d'accord, ils avaient un statut professionnel. Voilà. Oui. C'est un statut ordinaire, en fait.
C'est un statut, oui, absolument.
Oui, parce qu'en parallèle...
Mais bon, je crois que l'accréditation, l'agrément, ça a été aussi objet de certaines manœuvres en tout genre. Mais ça aboutit.
Ça a fini par aboutir.
Oui, absolument. Et puis, ça a créé la première forme de coopérative sociale, à caractère social, c'est-à-dire qui avait vraiment comme but l'insertion des sociétaires et notamment veiller aux conditions de travail. Ça, c'était extrêmement important, que c'était pas n'importe comment et qu'on ne les perdait pas de vue, et qu'il y a toujours cette relation. Que la relation, qu'à tout moment, ils ne se sentaient pas abandonnés, qu'ils étaient toujours entourés, et que, voilà, c'était pas
isolé. Est-ce que vous estimez, avec le recul, comme cela, que ce que vous avez vu du fonctionnement de ces coopératives, est-ce que ça fait penser à ce qu'on a connu en France, les ESAT, les centres d'aide par le travail, qui sont hors droit du travail, hein, c'est hors droit du travail.
Non. Il y a une très grande différence. La grande différence, c'est que les personnes, les travailleurs associés, sont des protagonistes. C'est-à-dire, ce sont les auteurs de leur projet. C'est-à-dire, ils sont les chefs de leur projet.
Ils sont sociétaires.
Oui, ce sont eux qui décident. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils ont une autonomie, ils ont un statut de droit commun, ils participent de la production avec un pouvoir de décision.
Absolument.
Oui, évidemment. Ça n'a rien à voir. Mais ça, c'était donc dans une logique autogestionnaire.
Absolument.
Oui, ça n'a rien à voir. Oui, on va dire que Boasaglia a bénéficié, a fait partie du vent un peu subversif de cette époque.
Absolument.
Parce que ce qu'on a connu en France comme développement, c'est absolument sordide. Je suis vraiment désolé. Les CAT, c'est vraiment... D'accord. Donc, c'est vraiment très intéressant.
Après, j'ai quitté l'Italie en fin 83, parce que moi aussi, pour partir... Ah oui, tout volontaire était comme les patients, on devait avoir un projet. Et donc, pour moi, on a trouvé avec d'autres un projet en Suisse, parce qu'il y avait un autre Suisse. Et nous, on a été affectés à un hôpital à Bâle.
Oui. Et Bâle, c'est quel canton, Bâle ?
C'est le Bâle canton et Bâle ville. Ce sont deux cantons différents.
C'est la Suisse germanique ou la Suisse
Oui, c'est proche de la frontière française. Ouais. Et à cet hôpital, alors là, c'est le contre-coup, je veux dire.
Le coup de bâton en avant.
Wow.
Ah oui, le truc horrible. De...
Ah wow. Wow. Wow.
Donc,
c'était un hôpital, on va dire, déjà relativement ouvert, on va dire, ce qu'on m'a dit. Mais je ne l'ai pas du tout ressenti comme tel. Parce que c'était peut-être dû à mon statut de psychologue et je me retrouvais... je me ressentais plutôt dans un rôle de bouffon que de vraiment quelqu'un... J'étais... Comment dire? Parce que je ne faisais pas ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire, je ne faisais pas de la thérapie. Je participais plutôt à ce que j'avais appris à Trieste, à démanteler l'asymétrie des relations.
Ah oui, ça. Ah oui, ça.
Et
vous
donc,
faisiez de la lutte anti-domination dans
oui.
votre fonction. Oui, ça, c'était pas bien vu. Oui.
Non. Par exemple, je m'enfermais avec les patients dans la chambre d'isolement.
Oui.
Et ça a été très mal vu parce que je... Je ne sais pas, je notais ça dans le dossier médical, mais je n'arrivais pas à en parler en réunion parce que je n'osais pas. En réunion, j'étais comme bloquée. J'ai
ça,
fait
c'était
face.
En 84, c'était en 1984.
C'est ça.
Donc vous aviez 26 ans là, à cette époque-là, c'est à peu près ça. Oui, donc vous étiez, bon, vous n'avez pas encore...
J'avais... Oui, c'est ça.
Ça, oui.
20, non, j'avais 29 ans. Oui.
Ah, d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Et donc, en fait, vous n'avez pas tenu le choc de votre insertion à l'hôpital de Zurich. Vous n'avez pas réussi à vous normaliser.
C'était, comment dire, c'était une expérience aussi marquante que celle de Trieste, mais dans le négatif. C'est-à-dire, j'ai vu tout d'un coup le revers de la médaille, peut-être d'une façon atténuée. Je n'ai pas connu le pire. Quand j'étais en Italie, on est allé visiter les asiles encore existants. Hein. Donc, on a vu comment les gens étaient maintenus en cage ou dans des salles carrelées jusqu'en haut et plein de traces de merde et les gens nus. Horrible. Donc, je n'ai pas connu ça. À Bâle, tout était très propre. C'était un peu comme votre studio ici, c'est très isolé.
Une propreté suisse.
Non, mais c'était très isolé.
Oui, bien sûr.
Oui, et c'était très propre. Oui,
oui, oui non, mais
c'est très stérile aussi.
Oui, voilà, oui.
Et ça m'a beaucoup intimidée, je peux vous le dire. Parce que, voilà, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être la psychiatrie ordinaire, jusqu'à ce que je la vive à l'intérieur avec les personnes qui étaient là. Et qui, les personnes dont je m'occupais, étaient des femmes qui avaient tout juste osé se rebeller contre leur style de vie, contre leur mari, contre ceux qui les opprimaient au travail. Mais il y avait aussi des gens très religieux qui souffraient horriblement de la culpabilité, voilà, au point de vouloir se suicider, notamment de personnes âgées qui avaient des grands remords et qui se flagellaient pratiquement intérieurement.
Moi, j'ai connu...
Des jeunes qui avaient voulu vivre autrement. Par exemple, s'installer sur leur balcon, une tente, était aussitôt qualifié comme étant dérangé d'esprit. Alors que pour moi, c'était des bêtises qu'on fait quand on est adolescent. Pour moi, c'était pas très grave. Et le fait que je juge que c'était pas grave, c'était très mal vu aussi.
C'est ce qui vous a conduit à arrêter de travailler dans ce genre d'institution, parce que finalement, vous avez quitté cette branche-là.
Oui. Je peux le dire comme ça, que j'ai fait une thèse. Je me suis dit, il fallait absolument que je digère ce contraste très extrême entre ce que j'ai pu vivre successivement.
C'est-à-dire, vous avez vécu une expérience systématisée qui a fonctionné anti-asilaire, un peu, de ce qu'on appelait la révolution psychiatrique italienne, l'antipsychiatrie italienne, et vous avez... Par ailleurs, juste après, connu l'institution psychiatrique en tant que telle, l'hygiénisme suisse, tout bien rangé, tout bien, tout le monde dans une case bien proprette, mais c'est l'horreur. Et donc, ce différentiel.
C'est ce que j'ai ressenti. Comme
oui, il y a de quoi. Oui. Ouais. Y a de quoi.
Après, il y a une parenthèse qui s'est ouverte que je n'ai pas hésité de saisir. C'est-à-dire, j'avais un copain qui est architecte, qui est resté à Venise, et qui m'a écrit, c'était un Français, et qui voulait, qui m'invitait à participer à une expérience de laboratoire... artistique, scientifique, on va dire. Et je lui ai écrit, écoute, ça se passait en Toscane. Lui, il voulait terminer sa thèse en architecture et il avait autour de lui un certain nombre d'amis. Et moi, je débarquais avec ma thèse sur la folie au Moyen-Âge. Et je... commencer là en discutant aussi, à digérer un petit peu ce que j'avais vécu à Trieste et à Bâle. Et après, pour faire bref, on est parti s'installer en France. C'est comme ça que s'est opéré ma trajectoire vers la France. Mais vous avez raison, après j'ai un peu abandonné l'idée de... Oh, j'ai essayé au départ, j'ai écrit à divers hôpitaux psychiatriques à Paris et en Île-de-France, et j'ai eu une entrevue à Gonesse, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour travailler dans ça. J'ai pas la carrure, j'ai pas l'énergie, la force, tout ce qu'il faut, les ressorts, pour me faire un chemin.
C'est-à-dire, dans la psychiatrie française, que vous auriez pu faire, mais pas plus, vous n'auriez pas tenu. Vous n'auriez pas votre genre de personnalité, vous ne tenez pas. C'est de l'art-thérapie. À la limite, vous auriez pu faire de l'art-thérapie.
Mais
c'est tout. Voilà.
Peut-être.
Il faut savoir ce que c'est qu'une psychologue ou un psychologue dans les institutions psychiatriques en France. C'est la cinquième roue du carrosse.
Oui, non,
C'est pas intéressant. Hein.
Non, c'est pas intéressant. Non, j'ai capté ça, donc j'ai... Je me suis dit, je vais plutôt évoluer à l'extérieur. Parce que j'ai quand même travaillé dans un centre de santé mentale à Trieste. Je me disais, il y a l'autre voie possible qui est ouverte, c'est de labourer le champ des relations à l'extérieur de l'institution, là où vivent les gens normaux. Donc, je commençais à m'intéresser à... mon entourage immédiat, là où je vivais à Paris, et j'ai commencé à m'insérer.
Revenons vers les normaux. Il y en a marre des malades, revenons vers les normaux.
C'était pas plus facile. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, est-ce que c'est votre expérience professionnelle qui vous a amené à vous intéresser au revenu universel de base?
Voilà.
On y est.
Donc, j'ai découvert au bout d'un moment aussi que... on vit dans un monde qui est basé sur l'argent et que le revenu de base pouvait être un concept, un outil qui relie les uns aux autres, c'est-à-dire qui donne une base égalitaire à laquelle on peut se référer. un tiers auquel on peut se référer.
Alors d'abord, donnez-nous une définition de ce qu'est un revenu universel de base. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, un revenu universel est une somme payée à un rythme régulier individuellement, d'une façon universelle, qui est cumulable avec d'autres ressources, qui est inaliénable, un droit inaliénable. Et qui est défini par une communauté politique et qui, selon moi, d'être pour avoir un effet émancipatoire, doit se situer au-delà du pur seuil de pauvreté. Voilà.
Donc c'est une somme qui est distribuée d'office, sans qu'il y ait de conditions,
oui,
à toute personne de façon individuelle sur un territoire donné.
Exactement. Et c'est, voilà, c'est une interprétation aussi d'un article des droits de l'homme, article 25, si je m'abuse, qui assure une existence à toute personne à un niveau de vie décent. Et pour le mouvement français pour un revenu de base dans lequel je suis membre, c'est un peu ça, c'est un droit humain et qui reste attaché à la personne où qu'elle soit, dans quelles conditions qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle soit internée, en prison, qu'elle soit à l'extérieur, qu'elle soit homme, femme, enfant, de la naissance à la mort. Parce que vos droits commencent avec votre
naissance.
Acte de naissance et se terminent avec votre acte de défunt. Et voilà, donc c'est un concept qui est donc à une base égalitaire.
Et la disjonction de ce droit par rapport au travail ? Parce que,
alors, ça permet d'inclure dans la notion de travail bien plus que la notion étriquée qui est celle de l'emploi. Elle permet de faire du travail une idée
plus générale,
inclusive, c'est-à-dire de y intégrer aussi tout le travail invisible qui est fait, le travail bénévole, le travail des maires, le travail... voilà, de tout ce qui se fait, le travail des étrangers, le travail qui est occulté, qui ne figure pas dans le PIB. Bon, récemment, il y figure, si on veut, parce qu'en fait, maintenant, on demande, quand vous faites une demande de subvention, on vous demande d'y inscrire le nombre, une évaluation du nombre d'heures bénévoles à hauteur du SMIC.
Oui, le travail bénévole est valorisable dans les tableaux comptables, en effet. Oui. En effet. Mais oui. Nous, si on faisait ça, on exploserait, on exploserait les plafonds.
Alors, je ne sais pas. Il y a, au sein du mouvement, il y a des gens qui sont bien plus que moi des économistes. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont calculé en tout sens. Et il y en a qui disent, mais non, ça ne change pas beaucoup de choses parce que ça nécessite des réformes au niveau fiscal, ça nécessite des réformes au niveau...
Vous connaissez la thèse. La thèse, le regard marxiste, l'analyse économique marxiste là-dessus, telle qu'elle a été développée dans Mediapart par Romaric Godin sur la base d'auteurs et d'études. Alors, la thèse qu'il défend, c'est polémiqué, d'ailleurs, vous m'avez envoyé un texte là-dessus. Romaric Godin développe l'argument à travers des auteurs qu'il cite, que les partisans du revenu universel de base sont en fait des partisans d'un libéralisme surdéveloppé, mais avec une rationalisation tout de même, puisque cette distribution il met ça en corrélation avec le développement des minima sociaux. Je termine le raisonnement après. Donc, on distribue certes cette somme, bien, mais cela permet de démanteler la fonction publique, si bien qu'en fait, c'est finalement le schéma libéral d'un moindre État, d'une moindre fonction publique, et les gens, moyennant ce qu'ils reçoivent, peuvent s'adresser au marché et mettre en concurrence le service public et des prestations privées, etc., pour obtenir à peu près la même chose. Bon, bref, il défend que ça s'inscrit dans un schéma de libéralisme étendu. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est pas convaincant.
Ce n'est pas convaincant. Moi, franchement, je trouve qu'en tournant rond,
oui,
si on continue à penser comme on a l'habitude de penser...
Oui, d'accord, oui.
Je trouve qu'il ne faut pas se...
Il faut changer. Il faut changer de paradigme.
Ah bah oui.
Oui, voilà.
Absolument. Il faut aussi dire que le service public, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Mais il faut le proportionner à la situation d'aujourd'hui. Il faut que ce soit quelque chose qui soit souple, pas un monolithe administratif comme on le connaît aujourd'hui.
Oui. Ben, de toute façon, on sait que quand un régime se met en place, et plus précisément un régime autoritaire, les gens qui prennent le pouvoir distribuent des postes de fonctionnaires à leurs proches et affidés, et que ces postes sont très fréquemment des sinécures.
Oui.
On le sait. On sait qu'avec une hypertrophie, on sait ce que ça donne au niveau des usagers des services publics, une hypertrophie des services publics, on sait ce que ça donne. Au bout d'un certain temps, c'est pas pour rien qu'il y a des mouvements de protestation des usagers. C'est vrai, on a besoin d'un service public relativement puissant, mais bien proportionné là-dessus.
Oui, non. Oui, je trouve que... Qu'est-ce que j'avais lu récemment de Axel Honneth? Axel Honneth, c'est un philosophe de l'école de Francfort, et il a dit quelque chose. Il a dit que l'État de droit devrait se préoccuper d'équilibrer dans les conditions de travail, à travers les conditions de travail, ce qui est de visée égoïste vis-à-vis de ce qui est de visée altruiste. Je trouve qu'il a bien vu. Je trouve que c'est un peu ça qu'on vise aussi avec le revenu de base. C'est qu'il devrait y avoir une manière à trouver comment on peut...
combiner le développement personnel et l'intérêt collectif.
Ah ouais.
Alors attendez, il y a autre chose. D'après la dernière conférence que j'avais entendue, là où le revenu universel de base a été expérimenté, on a noté une amélioration de la santé mentale des personnes sur le territoire concerné.
Ah oui, oui. Ça c'est l'expérimentation de revenu de base. Ça se fait un peu partout dans le monde, dans des circonstances, dans des contextes très différents, variés, souvent pas comparables. Et l'expérience que vous citez a été conduite très tôt dans les années 70 au Canada, dans le contexte de ville. Et c'est là où on a effectivement constaté que ça réduisait le nombre d'admissions en hôpital psychiatrique, mais aussi toutes sortes.
Ça réduisait la consommation de médicaments aussi.
Consommation de médicaments, l'alcoolisme. Donc ça veut bien dire que le revenu de base a cet effet de, vous voyez, de stabilisateur un peu.
De compensation, oui. Oui, non, de stabilisation.
Oui. De stabilisateur, oui.
Oui, c'est-à-dire on cesse d'être inquiet pour ce qu'on va devenir, pour l'avenir. On sait qu'il y a une base.
Oui.
Et donc on peut...
Une base qui vous permet de reprendre votre temps de vie à vous, sans être paniqué à l'idée que maintenant je dois aller chercher du travail, travailler. Et ce sera ça ma vie, d'être dans une roue de hamster qui s'appelle travail, vous voyez. Le travail peut être avoir un autre visage.
Le travail peut être autre chose que punitif.
Exactement.
C'est non, parce que c'est tout à fait ça. En fait, cela ouvre la perspective de sortir d'une société basée sur la domination, sur la culpabilité, sur la dette, et où finalement c'est la majorité de la population du bas de l'échelle qui est redevable par rapport à la minorité nantie qui culpabilise tout le monde. Hein, finalement.
D'ailleurs, on a le soutien du pape François, figurez-vous, parce que lui vient d'un pays qui a développé à son temps ce qu'on appelle la théologie positive,
oui.
Qui ne part pas de l'idée de la dette, du péché, et qui pâtit une toute autre pensée, et que je trouve très intéressant, que j'ai croisé au cours de ma thèse. Et voilà, qui s'inscrit pleinement dans cette pensée qui mène à penser le revenu de base, parce qu'il revient aussi à un mode de fonctionnement du Moyen-Âge qui a connu la séparation de travail et d'indemnisation au sein de l'économie monastique.
Dans l'économie monastique, oui.
De la règle de Saint-Benoît. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, on doit, comme je vous l'ai dit, chercher à remplir d'un nouvel idéal la notion de travail.
Oui, c'est des thèses. Il y a aussi les thèses développées par Bernard Friot, hein, au niveau des nouveaux courants économiques communistes, hein, liés au PCF, hein, d'ailleurs.
Mais
je termine. Ils soutiennent qu'on doit, à l'heure actuelle, valoriser ce que vous dites, le travail invisible, qui n'est pas, considéré, qui n'a jamais été considéré comme devant être salarié. Le problème d'un sujet comme la nôtre, c'est que on salarie dès le moment où il y a une relation de subordination, une relation d'exploitation, une relation de domination, mais une relation complètement dissymétrique à laquelle on doit absolument se soumettre à ses risques et périls, hein, avec
alors
tous les risques.
Oui. Genre aller vers une forme coopérative.
Oui, c'est ouais. Ça, une forme plus émancipée.
Ah oui.
Oui. Le drame du marché du travail à l'heure actuelle, pour beaucoup de fonctions, c'est que si l'on veut y rentrer, si on veut être apte là-dedans, c'est aussi pouvoir se faire casser, pouvoir se faire fiche en l'air.
Oui.
Parce que bon,
non,
moi, je fais partie des gens qui ont préféré opter pour un pensionnement plutôt que pour ça.
Dernier mot encore, par rapport aux enfants, ça sera très très bénéfique pour l'éducation des enfants, parce que on aurait un nouveau idéal aussi pour l'éducation, vous voyez.
Oui, bien sûr.
Parce
en
que
tout
c'est,
cas,
c'est oui. là le côté préventif, c'est-à-dire si on éduque d'une manière plus à une visée coopérative, on implique tôt les enfants dans un fonctionnement plus égalitaire et plus responsabilisant, sans avoir recours à cette pédagogie noire qui était dénoncée par Katharina Rutschke et Alice Miller à leur temps, et qui crée toujours le pervers narcissique et...
Bah moi, j'ai connu, de toute façon, cette époque où la pédagogie, c'était de la violence.
C'est ça.
C'était de la violence. Alors, cependant, il y a un hic à ce schéma qui est tout à fait intéressant. C'est que nos latitudes sont sous la pression de la bombe démographique venant du Sud. Et que, comme je disais l'autre jour ironiquement, très bien, on implante cela sur un pays riverain de la Méditerranée, on embauchera Frontex. Une pause musicale.
Thank you.
Et voilà, donc c'était l'émission L'Entonnoir, critique de la psychiatrie. Pardon. Et voilà, et nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir.
Ouais, moi, j'ai pas en fait mon habitude, ça fait plus d'un quart de siècle.
Alors, on finit avec Marc Perron, qui est Bella la Vita.